Si vous venez de nous rejoindre, bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc FM, la radio des francophones de Toronto. Alors vous écoutez Le Boudoir, l'émission qui ne badine pas avec l'amour, avec Corinne au micro et Xavier à la technique. On vous tient compagnie chaque semaine pour parler de relations humaines. Il peut s'agir bien sûr de compassion, car je veux croire que la notion d'aimer son prochain n'est pas et ne sera jamais obsolète. L'actualité nous invite à plus de compassion d'ailleurs, comme cette semaine à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, célébrée le 20 novembre chaque année. Selon Vision Mondiale, il y a, je crois, 85 millions d'enfants dans le monde qui sont soumis aux pires formes de travail et les fruits de leur labeur se retrouvent souvent dans les produits consommés au Canada, et ce à notre insu, car il est vraiment difficile d'identifier les traces du travail des enfants dans le processus de fabrication, en passant par l'assemblage ou l'exportation, les traces du travail des enfants disparaissent. Et donc les adeptes de la consommation éthique ou ce qu'on appelle la consommation responsable, propose ou tente de réduire ou d'empêcher ces pratiques néfastes, bien sûr. Et pour en parler ce soir, je reçois Rina Vora, qui est conseillère en politique pour la protection des enfants chez Vision Mondiale, une organisation caritative qui s'attache à éliminer toutes les formes de travail abusif, c'est-à-dire qui nuisent à la santé, au développement physique et psychologique des enfants et qui les empêche d'aller à l'école. Alors bonsoir Rina.
Bonsoir Corinne.
Merci d'être avec nous ce soir. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas bien ou qui ne connaissent pas bien votre organisation, pouvez-vous nous parler de votre parcours et comment il vous a mené à rejoindre Vision Mondiale Canada?
Bien sûr. Mon parcours est relativement direct. Moi, je suis intéressée au sujet du développement international en général depuis mon enfance. À 5 ans, j'ai passé un été aux Philippines avec ma mère. Et c'était là où j'ai vu avec mes propres yeux l'injustice dans ce monde entre les ceux qu'ils ont et les ceux qu'ils n'ont pas. Et même à cet jeune âge, ça c'est quelque chose qui a laissé une impression, exactement. Mmh. Et c'est cela qui m'a poussée à m'intéresser aux questions de la justice des droits humains comme adulte. Et je me suis inscrite dans plusieurs stages avec diverses organisations humanitaires. En particulier, j'ai travaillé directement avec les victimes de la traite en Thaïlande. Mmh. Et c'est lors de ce stage en particulier que j'ai décidé d'orienter ma carrière vers la protection des enfants.
Mm-hmm. Qui sont victimes justement de traite
exactement.
Dans ces pays.
Et la Vision Mondiale représente pour moi la force la plus grande au Canada qui travaille dans la lutte contre la pauvreté, l'injustice et l'exploitation des enfants. Et ça, c'est comment je me suis rendue ici.
Et donc, en quoi consiste votre rôle en tant que conseillère en politique pour la protection des enfants?
Oui, c'est un gros titre, c'est énorme. Oui. Ça consiste beaucoup. Mais si je peux dire dans une phrase simple, c'est vraiment de... Moi, je suis la voix pour ceux qui sont dans le besoin. Mm-hmm. Alors, dans mon rôle, j'ai l'opportunité de communiquer régulièrement avec le gouvernement du Canada, les entreprises canadiennes, les organisations de société civile, et même les communautés et les enfants partout au monde pour assurer que les règlements et les lois sont mises en place pour protéger les enfants partout au monde.
Et donc, j'imagine que vous travaillez en collaboration avec vos partenaires dans d'autres pays également?
Exactement. Vision Mondiale travaille dans 100 pays partout au monde. Mm-hmm. Et quand j'ai dit que j'ai eu l'opportunité de communiquer avec les communautés, c'est vraiment ça. Parce que nous avons les partenaires qui travaillent sur le terrain.
Sur le terrain.
Dans ces pays. Et c'est eux qui me donne l'information à quoi je dois communiquer avec le gouvernement du Canada. Mm-hmm. Alors, c'est leurs besoins que je communique avec mm-hmm. les entreprises ici et le gouvernement.
Est-ce que ça vous arrive aussi de devoir communiquer ou négocier avec les gouvernements des pays sur place où vous avez des projets?
Pas vraiment. Pas vraiment. Mon rôle ici est vraiment pour communiquer avec le gouvernement du Canada. D'accord. Nos partenaires qui sont situés dans ces pays communiquent directement avec
leur gouvernement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui justement du travail des enfants dans le monde et de sa traçabilité sur les produits ou dans les la traçabilité du travail des enfants dans les produits qui sont consommés ici?
C'est très compliqué. Comme vous avez dit, il y a 85 millions d'enfants qui travaillent dans les pires formes de travail. Ça, c'est les conditions qui sont sales, dégradantes, dangereuses.
Abusives.
C'est vraiment triste. Ça brise le cœur quand tu vois les enfants dans ces emplois.
Dans ces conditions. Mm-hmm.
Mais c'est presque impossible d'estimer le nombre exact des enfants qui travaillent dans ces conditions qui peuvent être tracées les produits que nous consommons ici au Canada. Mm-hmm. C'est parce que la complexité et la longueur des chaînes de distribution mondiale, c'est absolument impossible de suivre les origines d'un bon ou de savoir si l'exploitation des enfants a été impliquée.
Oui, parce qu'il n'y a pas de système informatisé. Autant la traçabilité de certains matériaux utilisés dans les produits qu'on achète ici, il y a un numéro de série, et donc on peut savoir d'où vient tel ou tel matériel qui a été utilisé. Par exemple, dans un appareil photo, on peut savoir exactement quel matériel a été utilisé, mais on ne sait pas si ça a été assemblé par des enfants dans des usines perdu quelque part où personne ne sait ce qui se passe?
Exactement. Ce qui est certain, c'est que la présence de l'exploitation des enfants, on peut trouver dans chaque étape des chaînes d'approvisionnement mondiales.
Dans chaque étape.
Alors, ça veut dire de la collecte des matières premières à l'assemblage du produit fini.
Incroyable.
Et c'est dans les produits que nous, comme les Canadiens, consommons et utilisons quotidiennement, comme les céréales, le thé, le café, le sucre, le riz, les fruits et légumes. C'est, la liste est longue. Si on peut penser aussi à nos vêtements,
oui.
Les électroniques, nos bijoux, le maquillage, je peux continuer. Alors, c'est évident que ça, c'est un gros problème.
Oui, oui. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça avait fait un petit peu un gros boom avec Nike, je crois, ou certaines grandes marques comme ça qui avaient ouvertement... Voilà, on avait découvert que le travail des enfants faisait partie de la production de ces produits de grande consommation. Mais voilà, comme vous dites, au quotidien, il y a énormément de produits qu'on utilise sans le savoir. C'est ça, c'est sans que nous, on puisse le savoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les lois canadiennes qui existent pour mettre fin au travail des enfants, d'une part, et aussi pour interdire ces produits sur le marché canadien, si c'est possible de le faire.
Le Canada est signataire de divers accords internationaux.
D'accord.
Qui interdisent le travail des enfants.
D'accord.
En particulier, il y a deux qui sont les plus importants.
Mm-hmm.
La Convention relative aux droits des enfants,
d'accord,
qui est des Nations Unies,
mm-hmm,
et la Convention de l'Organisation internationale de travail sur l'éradication des pires formes de travail.
D'accord.
Alors, le Canada a signé les deux.
Mm-hmm.
Alors, ça démontre que ça, c'est une priorité.
Mm-hmm.
Mais, comme j'ai dit, c'est impossible de savoir... Où commencer. Pas seulement où commencer, mais où les traces des enfants apparaissent dans nos produits, comme j'ai dit.
Mmh.
Alors, il n'y a pas une loi qui existe au Canada pour interdire les produits fabriqués par les enfants parce qu'on ne peut pas savoir quels sont les produits qui sont fabriqués par les enfants.
D'accord.
Ça, c'est la vérité.
Oui. Donc, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par différents gouvernements, y compris le Canada, pour essayer d'augmenter cette traçabilité ou bien qu'est-ce que...
Oui, bien sûr. Il y a les mesures en place récemment qui étaient passées en Angleterre.
D'accord.
et aussi en Californie. Et c'est la même chose que nous proposons ici au Canada. Vision mondiale, on demande au gouvernement du Canada d'instaurer une législation qui obligerait les grandes entreprises qui importent des biens au Canada de rapporter publiquement chaque année leurs efforts de contrôler, remédier et empêcher le travail des enfants. Alors ça, c'est une mesure concrète.
Et ça, c'est récent alors, hein?
Ça, c'est récent en Angleterre. Et Californie a passé cette loi en 2012.
D'accord.
Alors, nous demandons cette loi de Canada pour que Canada aussi mettre les mesures en place pour protéger les enfants partout au monde.
Et ça, est-ce que c'est donc, je veux dire, concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut approcher chaque parti politique ou bien est-ce qu'il faut aller parler directement au gouvernement en place? Là, on vient d'avoir des élections, alors j'imagine que ça faut recréer tout le réseau de contacts. Comment on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut aller voir chaque parlementaire, les sénateurs? Comment on fait, les ministres?
C'est une longue procédure. Nous avons publié un rapport de recherche en juin de cette année qui propose cette demande de législation au gouvernement du Canada. À cause de l'élection récente, c'est vraiment les conversations qu'on doit avoir avec le nouveau gouvernement.
Oui,
mais pas seulement le gouvernement, aussi les entreprises canadiennes. C'est vraiment un dialogue entre
la société
tous
civile
ces, tous ces tous ces acteurs,
les
on peut
acteurs
dire.
Du,
oui.
du
alors c'est le monde universitaire, c'est les organisations de société civile comme Vision mondiale, mais les autres partenaires partout au Canada, c'est les entreprises canadiennes et c'est aussi le gouvernement du Canada, parce que ça c'est si ça, c'est une loi qui va être effective pour protéger les enfants, c'est quelque chose que tous ces acteurs devraient collaborer pour assurer que c'est effectif.
Et, oui, et puis il faut que tout le monde soit conscient du problème, de l'ampleur du problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. C'est vrai que moi, quand j'ai lu votre documentation très, très détaillée, j'en revenais pas. Des produits qu'on peut consommer sans le savoir. Et ça, c'est terrible parce qu'on... Les gens qui ont une conscience ne veulent pas justement soutenir ces pratiques, mais comment faire pour identifier les produits? Mais je pense qu'il y a des progrès, notamment avec tout ce qui est le commerce éthique. Donc je pense que Vision Mondiale a fait beaucoup de choses aussi dans ce domaine. J'avais été voir le film Ducalé, Le rêve de Ducalé cet été. C'était vraiment intéressant de voir sur le terrain les projets qui sont faits pour... donner une voix aux producteurs locaux et d'essayer de rétablir une certaine justice dans le monde, justement dans le commerce. Mais pouvez-vous nous expliquer peut-être les actions ici et dans les pays concernés que Vision Mondiale met en place pour lutter contre le travail des enfants? Parce que j'ai cru comprendre qu'un des défis, c'est que souvent, si on empêche complètement le travail des enfants... l'enfant et sa famille peuvent se retrouver dans des situations économiques encore plus difficiles. Donc là, on est face à encore un autre problème. C'est faut-il complètement l'empêcher ou est-ce qu'il faut graduellement amener les enfants vers des meilleures sources de revenus ou des façons de gagner leur vie plus humaines, parce qu'on ne peut pas les empêcher complètement d'aider leur famille à survivre. Dans beaucoup de pays, c'est ça le problème.
Ça, c'est vraiment le problème. Et ça, c'est une bonne question, Corinne. Avec la législation, par exemple, on ne demande pas que si une entreprise trouve un enfant qui travaille dans leur chaîne de distribution, on ne veut pas qu'ils empêchent immédiatement. Comme vous avez suggéré, c'est une procédure graduelle.
Graduelle, oui.
Et c'est vraiment de travailler avec l'entreprise, la communauté, la famille et l'enfant pour assurer que l'enfant et la famille... Parce que c'est vraiment la famille, l'enfant gagne un salaire pour la famille, pour survivre. Alors ça, c'est la vérité. Alors si l'entreprise empêche l'enfant immédiatement, comme vous avez dit, l'enfant va être dans les conditions...
Encore pire peut-être, de devoir trouver un autre type de travail encore plus dégradant.
Exactement. Alors ça, c'est pas qu'est-ce qu'on suggère. Mais on a des ressources sur notre site web, par exemple, qui donnent aux entreprises les étapes s'ils trouvent... le travail des enfants dans leur chaîne de distribution. Et c'est pas d'empêcher immédiatement l'enfant, c'est vraiment de travailler avec la communauté. Parce que comme j'ai dit avant, Vision Mondiale travaille dans le terrain, mm-hmm. avec les communautés. Alors, ce que cette expérience nous a enseigné, c'est vraiment qu'il n'y a pas une solution miracle.
Ben, bien sûr.
Malheureusement, pas. Mm-hmm. Mais si les entreprises... peut faire les étapes pour travailler avec la famille et la communauté, ça va être...
Pour graduellement orienter les enfants vers d'autres possibilités peut-être plus humaines, plus gratifiantes aussi. Je pense que l'éducation, c'est un point important hein, dans les programmes que vous avez sur le terrain.
Oui, bien sûr.
Permettre aux enfants d'aller à l'école, parce qu'en allant à l'école, ça va leur permettre peut-être d'avoir accès à des situations de travail ou de survie moins dégradantes, justement.
Et moi, je suis une témoigne. Quand moi, j'ai visité Bangladesh, par exemple, j'ai rencontré les enfants qui travaillaient, mais Vision Mondiale a arrangé avec leur employeur qu'ils puissent aller à l'école pendant la nuit. Mmh. Alors, c'était un arrangement dans la communauté pour que, oui, les enfants devraient travailler pour gagner un salaire pour leur famille, mais les employeurs comprennent qu'ils ont besoin aussi de l'éducation. Mmh. Alors, c'était
une collaboration. Oui. Mmh. Et est-ce que peut-être vous pouviez nous expliquer comment la consommation éthique peut permettre de réduire l'esclavage des enfants ou le travail forcé des enfants?
La consommation éthique donne le pouvoir aux consommateurs. Mmh. Et c'est les entreprises répondent au profit. Alors, c'est vraiment... la consommation éthique peut jouer un rôle en favorisant des changements dans les pratiques commerciales. Mm-hmm, mm-hmm. Si on pense de la catastrophe de Rana Plaza, par exemple, s'il y a eu un effet positif de ça, c'est que les détaillants, les grandes marques, ils ont été avisés qu'il doit prendre des mesures pour protéger les travailleurs, mais aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur chaîne de distribution. Et c'était vraiment à cause de la consommation éthique qu'ils ont répondu à ça. Mm-hmm. C'est parce que le média, les investisseurs, les consommateurs en général étaient fâchés, étaient tristes.
Outrés, oui.
C'était une catastrophe au niveau global. Mm-hmm. Et à cause de ça, les entreprises ont mis des mesures en place pour protéger les enfants et les travailleurs. Mm-hmm. Et c'est un mouvement comme ça qui peut éliminer ou réduire.
Réduire graduellement. On espère éliminer à long terme, mais quels conseils pratiques donneriez-vous aux gens qui veulent faire des choix éclairés justement en matière de consommation, malgré le défi qu'on a en ce moment, c'est la traçabilité du travail des enfants dans les produits que nous consommons, ici au Canada et dans d'autres grandes nations du monde, mais peut-être quand même on peut avoir des pistes pour faire des choix éclairés. Est-ce qu'il y a des labels, par exemple, ou des... producteurs qui assurent qu'aucun enfant ne travaille dans la chaîne de production? Est-ce qu'il y a des... Comme pour le café, les producteurs de café éthique et de commerce éthique, il y a maintenant plusieurs labels qui certifient. Est-ce que ça existe pour le travail des enfants?
Il y a beaucoup de certifications qui démontrent le progrès, bien sûr. Mais Vision Mondiale, nous ne recommandons pas certains... certification au lieu des autres.
Ah, d'accord.
Si je peux donner un conseil pratique, c'est nous, comme les consommateurs, c'est demande la transparence des entreprises. C'est vraiment... la responsabilité, c'est à nous. Alors, les certifications, peut-être les questions sont déjà répondues pour certains consommateurs et ça, c'est parfait. C'est déjà une étape dans la bonne direction parce que c'est un achat positif et éthique,
d'accord,
on peut dire. Mais je propose des questions. Si moi, je suis en train d'évaluer un achat, j'ai quelques questions à poser pour évaluer. Et je peux donner, il y a comme 5 questions clés. Mm-hmm. Qui a fait les produits? Sur l'étiquette, c'est toujours l'origine de produits, mais qui a fait les produits? Si on peut demander ça aux entreprises, ça c'est très différent comme question.
Plutôt que seulement dire le pays d'origine.
Exactement.
Parce que pour le moment, tout ce qu'on voit, c'est fabriqué dans tel ou tel pays, mais c'est tout.
Ça ne dit rien. Mm-hmm. Alors, qui a fait les produits?
D'accord.
Comment est-ce que l'entreprise sait-elle que les produits ne sont pas le résultat du travail des enfants? Mm-hmm. Est-ce qu'on peut trouver cette information sur leur site web, mm-hmm. par exemple? Sinon, peut-être on va envoyer un courriel. Mm-hmm. Est-ce que l'entreprise suit-elle une code de conduite pour arrêter des pratiques exploitatrices? Encore, mm-hmm. ça, c'est pas les enseignements que tu peux voir sur une étiquette, mais c'est important de savoir...
De poser la question.
Exactement. Mm-hmm. S'ils ont une politique en place, comment est-ce que l'entreprise assure que c'est mis en œuvre pour leur fournisseur global?
Ah oui. Parce qu'ils peuvent, eux, avoir cette politique, mais
ici au Canada,
si
mais...
on sous-traite un certain aspect de sa production, on ne peut pas savoir ce qui se passe, bien sûr.
Et la dernière question, c'est comment est-ce qu'ils traitent des violations contre le code? Et c'est comme, si on revient aux questions avant, s'ils trouvent les enfants qui travaillent dans leur chaîne de distribution...
Qu'est-ce qu'ils font? Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises, justement, qui volontairement viennent travailler avec vous, Vision Mondiale, sur ces questions? Est-ce qu'il y a des regroupements d'entreprises qui ont officiellement fait le pas et décidé de travailler avec vous dans cette direction?
J'ai consulté avec plusieurs entreprises canadiennes, mm-hmm. mais c'est... Je ne sais, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça volontairement.
Ah, d'accord.
Mais ce qui est positif, c'est que les législations qui existent en Californie et récemment en Angleterre, c'est parce que ça requit les compagnies font des rapports publiquement,
d'accord,
avec ces lois. Mm-hmm. Beaucoup de ces compagnies sont globales. Mm-hmm. Alors, ces compagnies aussi font des opérations ici au Canada. Mm-hmm. Alors, ça, c'est...
On espère qu'il y aura un effet de propagation,
oui,
de l'Angleterre à la Californie, au Canada et dans les autres pays, les grandes
exactement.
Démocraties.
Mm-hmm. Oui, mais on a consulté.
Surtout pour les leaders de la consommation. Je ne sais pas si on prend Coca-Cola, McDonald's, les grandes marques comme ça. Je veux dire, on est vraiment en droit, je pense, d'exiger que des enseignes aussi importantes prennent position et puis disent si oui ou non, est-ce qu'elles ont un processus pour retracer le travail des enfants? Qu'est-ce qu'elles font si les droits des enfants ne sont pas respectés? C'est vrai que... Bon, pour les petites entreprises qui ont peu de moyens et qui ont personne sur le terrain, peut-être c'est plus difficile humainement de créer un programme de traçabilité du travail des enfants et de le mettre en place. Mais pour les grosses entreprises qui ont un budget énorme de communication, c'est difficile d'imaginer qu'ils n'aient pas un budget pour retracer le travail des enfants quand même.
Exactement.
Parce que c'est quand même une priorité stratégique. Je pense que, comme vous disiez, les consommateurs sont de plus en plus... conscients du pouvoir qu'ils ont de demander, d'exiger des entreprises qu'elles aient un comportement éthique, pas seulement sur place dans notre marché à nous, mais là où elles produisent les produits. Donc moi, ce qui me semble intéressant aussi, c'est de voir dans quelle mesure vous, votre organisation, travaillez avec des bénévoles et est-ce que vous recrutez des bénévoles pour certaines campagnes, y compris la campagne No Child for Sale?
Vision Mondiale est toujours à la recherche des bénévoles en général. Pour notre campagne No Child for Sale, on est toujours à la recherche des supporters. ça, c'est vraiment parce qu'on a une pétition sur notre site web contre l'exploitation des enfants.
D'accord.
Et alors, vous pouvez trouver sur visionmondiale.ca ou nochildforsale.ca
Pour signer la pétition.
Pour signer la pétition.
Mm-hmm. Visionmondiale.ca
et nochildforsale.ca. D'accord. Ce sont les deux pétitions. Mm-hmm. Mais comme j'ai dit, si vous êtes intéressé au travail de Vision Mondiale, c'est très facile d'être un consommateur éthique, mm-hmm, en commençant avec les décisions que vous faites avec vos achats. Ça donne un message aux entreprises canadiennes et ça peut protéger les enfants partout au monde. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Et une autre mesure, si vous êtes intéressé, c'est d'être une voix forte dans votre communauté.
Bien sûr, bien sûr.
La sensibilisation publique est très importante pour ces enfants. C'est simple. Mmh, alors, mmh. Partage ces informations avec votre famille, tes amis, tes collègues.
À l'école, au travail.
Exactement.
Oui, oui, oui. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Et puis, je pense que c'est ça aussi le pouvoir des médias sociaux aujourd'hui, c'est de disséminer un message. Et chaque personne peut avoir un impact sur les entreprises dont elles achètent des produits. Parfois, on se sent tout petit, mais finalement, quand on prend un groupe de consommateurs et qui décide de faire des choix éclairés, ça peut changer les choses. Mm-hmm. Donc, on espère que ça incitera nos auditeurs et nos auditrices à réfléchir et à diffuser l'information. Donc, je rappelle, Rina Vora, que vous êtes conseillère en politique pour la protection des enfants à Vision Mondiale. Et donc, on peut consulter les rapports que vous avez produits sur le site web. Hein.
Oui.
C'est un site bilingue, en français et en anglais.
Oui, c'est notre rapport de recherche que j'ai dit, c'est intitulé Check the Chain.
D'accord.
C'est un rapport qui demande au gouvernement de Canada la législation, mm-hmm, de transparence. Mm-hmm. Et ça, c'est situé sur notre site web nochildforsale.ca.
D'accord. OK, ben merci beaucoup. Vous écoutiez Le Boudoir ce soir avec Rina Vora. Merci d'avoir été avec nous et puis à la prochaine.
Merci.